Bonjour Philippe Grandcola.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. Les négociations de la COP16 biodiversité ont repris à Rome hier. La première réunion s'était à Cali en Colombie en novembre et elle avait échoué. En ouvrant la conférence hier, la présidente du sommet a parlé de la mission la plus importante de l'humanité au XXIe siècle, notre capacité à soutenir la vie sur cette planète. Est-ce que l'enjeu est aussi lourd, aussi grave que cela ?
Oui, tout à fait. En fait, quand on parle biodiversité, on pense à quelque chose d'exotique, de lointain, à des ours blancs, à des forêts tropicales. En réalité, la biodiversité est partout. Nous nourrissons de biodiversité. La biodiversité stocke l'eau dans les milieux naturels. 60% de l'eau de pluie, c'est dans la végétation.
Ouais.
On a absolument besoin de ce vivant. Et ce vivant, il régresse, il décline, il s'effondre depuis maintenant plusieurs décennies. Il faut absolument stopper cet effondrement.
Si vous deviez choisir un mot pour décrire ce à quoi nous assistons, quel mot vous emploieriez pour décrire l'état de la biodiversité aujourd'hui ?
Mais je dirais justement effondrement. On est dans une situation où dans tous les pays du monde, de nombreuses espèces perdent jusqu'à 70 ou 80% de leurs effectifs sous les pressions humaines. Et bien sûr, ces espèces, par ailleurs, nous rendent des services dans les systèmes écologiques, dans les écosystèmes. Et donc cet effondrement, ce n'est pas seulement un problème éthique, évidemment, c'est aussi un problème fonctionnel. On perd ce qui nous sert, on perd les pollinisateurs de nos cultures, on perd la végétation qui retient l'eau potable, on perd les organismes qui rendent les sols fertiles.
Oui, il y a bien un intérêt pour les humains.
Tout à fait.
Alors que les humains sont responsables de ce qui se passe. Je vais profiter de votre expertise pour dresser un état des lieux aussi clair et accessible que possible. Si on chiffre, combien d'espèces vivantes sont aujourd'hui menacées sur la Terre ?
Alors, à l'échéance d'à peu près 30 ans, on a 1 million d'espèces qui sont en très fort risque d'extinction.
1 million d'espèces, sur combien d'espèces au total ?
Ça représente à peu près 10% de ce qui existe sur le globe terrestre. C'est une estimation, évidemment.
Oui. Et menacée de quoi ? De raréfaction ou de disparition pure et simple ?
Alors, raréfaction dans un premier temps, c'est déjà ce qui se produit. Il y a de nombreux organismes qui perdent, comme je l'ai dit, plus de la moitié de leurs effectifs dans leur population maintenant ou dans les quelques années à venir. Et évidemment, si ça se poursuit sur plusieurs décennies, à la fin, on assiste réellement à l'extinction des espèces. C'est-à-dire que les mortalités sont tellement fortes, sont pas compensées par les natalités, que ces espèces disparaissent littéralement de la surface de la Terre. C'est ce qui s'est déjà produit pour un certain nombre d'entre elles.
Lesquelles, par exemple ?
Alors, par exemple, bien sûr, tout le monde connaît le loup de Tasmanie ou le dodo de l'île Maurice.
Oui.
Alors, ça ressemble un peu à des galeries de portraits un peu farfelus.
Un peu exotiques,
voilà, ouais. Qui auraient disparu parce que les humains, d'il y a quelques siècles, se seraient mal comportés. Mais en réalité, autour de nous, à chaque moment, de telles disparitions se produisent avec des espèces beaucoup moins visibles, beaucoup plus discrètes, des petits insectes, des mollusques, des organismes qui nous paraissent anodins, mais qui remplissent des rôles écologiques indispensables.
Oui, parce que quand on parle d'espèces vivantes, on va le rappeler rapidement, mais on parle d'espèces animales, mais aussi végétales. C'est tout le vivant qui est concerné.
Tout à fait. On a, et bien sûr, les animaux, les végétaux, et puis également les micro-organismes, qui sont évidemment relativement mal connus, mais qui aujourd'hui sont essentiels. Dans une petite cuillère à café de terre, on a 1 milliard de bactéries et sans ces bactéries, cette terre n'est pas fertile.
Oui. Est-ce qu'il y a des régions du monde qui sont plus touchées que d'autres où le phénomène d'effondrement que vous décrivez est mondial aujourd'hui ?
Alors, il est mondial, mais évidemment, les causes peuvent varier d'un endroit à l'autre. Évidemment, en Europe, la déforestation ou la disparition des zones humides a déjà fait malheureusement son ouvrage, alors que dans d'autres pays où il y a encore des écosystèmes naturels en grande quantité, notamment les grands bassins forestiers tropicaux, on a là un problème de disparition des habitats. En Europe ou en Amérique du Nord, ou en Chine, on est aujourd'hui plus sur un problème de pollution ou de changement climatique. Mais malheureusement, ces causes, de toute façon, se succèdent et se combinent dans tous les écosystèmes du monde.
Oui, il y a interaction de toute façon et toutes les causes se croisent en quelque sorte.
Tout à fait.
Sur le continent africain, quels sont les plus grands dangers que vous pouvez pointer ?
Alors, je pense qu'il est important, c'est de se rappeler justement que les grands bassins forestiers, ce sont des puits de carbone biologique, donc ils absorbent du gaz carbonique. Et aujourd'hui, le bassin du Congo, est de ce point de vue-là, est en grand danger, au même titre que le bassin amazonien dont on parle plus souvent, à tort, parce qu'il n'y a pas de raison de parler plus souvent de l'Amazonie que du bassin du Congo ou d'autres grands bassins forestiers tropicaux. Donc, évidemment, là, c'est un bien commun en regard de ces rôles écologiques globaux et les pays, tous les pays du monde devraient s'en préoccuper et aider les pays qui sont dépositaires de ces écosystèmes à les préserver en compensant éventuellement le manque d'activité qui pourrait en résulter.
Et donc, puis, les forêts.
Les forêts et d'autre part, dans toutes les zones soudano-sahéliennes, de savane, on a des désordres climatiques qui commencent à se produire. Hein. On le sait, dans certains endroits, les autorités doivent euthanasier des grands mammifères, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'eau à certains moments de l'année, à certaines saisons, pour qu'ils puissent continuer à vivre. Donc là, on va voir des aléas climatiques se développer de plus en plus souvent, qui vont nuire à cette grande faune que l'on connaît pourtant très bien.
Alors, ces espèces, elles sont toutes menacées, vous l'avez dit, par l'homme, mais encore.
Alors,
c'est vraiment l'activité humaine.
C'est vraiment l'activité humaine. C'est le même diagnostic que pour le climat.
Que pour le climat, que pour le réchauffement.
Voilà, tout à fait. On a malheureusement des effets des pressions humaines qui sont colossaux et qui vont croissant, tout simplement à cause de notre puissance industrielle. Il faut se rappeler que la tronçonneuse a été inventée au début du XXe siècle. Donc c'est quelque chose finalement d'assez récent que notre puissance industrielle mécanique. Et malheureusement, cette puissance est mise au service de la disparition des habitats, des prélèvements excessifs. Il faut se rappeler aussi qu'on a aujourd'hui plus d'un tiers des stocks de poissons qui sont en surpêche dans le monde. Et puis, toutes les pollutions, changement climatique et le transport d'espèces exotiques également qui posent problème.
Mais Philippe Grandcola, si on réfléchit cyniquement, quel est l'intérêt pour l'homme de préserver la nature, à part de préserver son paysage ?
Eh bien, c'est de préserver notre capacité à cultiver avec des pollinisateurs qui fécondent nos cultures. C'est la capacité des sols à rester fertiles. C'est la capacité de l'eau potable à rester dans notre environnement parce que plus de la moitié des pluies est stockée dans la végétation. C'est la capacité aussi des écosystèmes, finalement, à produire des antagonistes contre les organismes pathogènes qui pourraient nous agresser.
Ils nous servent, en
fait. Nous servent
la biodiversité nous sert. Je reprends une question, une remarque qu'on retrouve dans votre dernier livre, Fake or Not, Biodiversité, c'est chez Tana Édition. Les ours blancs vont disparaître, et alors ?
Oui, et alors effectivement, on pourrait se dire que c'est un événement anecdotique, même s'il est très triste au plan éthique, mais en réalité, la biodiversité, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. Si on veut être allé pousser le cynisme jusqu'à une expression économique de cela, c'est plus d'un tiers du PIB mondial qui dépend directement de la biodiversité.
Oui, donc plus de biodiversité, c'est une grande part de la richesse mondiale qui s'effondre. L'enjeu de la COP16, c'est le financement de la sauvegarde de la nature, c'est bien ça. De quelle somme a-t-on besoin ? Est-ce qu'on a un chiffrage ? On voit passer évidemment des milliards, question de 200 milliards de dollars annuels.
Effectivement, on devrait aller jusqu'à ce point-là, et on devrait surtout se rendre compte, encore une fois, qu'on parle de biens communs. On ne parle pas des ours blancs ou des animaux de la forêt congolaise ou des animaux du bassin amazonien.
Ou des coraux d'Australie.
On parle en fait d'écosystèmes qui remplissent des rôles globaux. Et donc pour, par exemple, des pays du Nord, la tentation pourrait être forte, à l'instar des États-Unis récemment sous sa nouvelle présidence, de s'extraire d'un mécanisme de financement international. Et en fait, ça serait une erreur colossale, même au simple plan d'un égocentrisme bien compris.
Oui. C'est notre affaire à tous. Vous qui nous informez, nous alertez depuis des années, vous gardez espoir ?
Écoutez, on garde espoir parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à être conscientes de cette problématique, mais malheureusement pas encore assez.
Merci Philippe Grandcola d'être venu ce matin pour nous en parler sur RFI. Bonne journée.